CPU, carré et petit utile.
Dans cette version de CPU, comment décoder une carte bleue ? Le paiement sans contact, sans tabou ? La victoire de la petite monnaie sur Monéo ? Et l'histoire d'une puce qui deviendra carte. L'équipe de cette première, Gaël Serres, Solarus, Daskritch et Eugène, notre premier invité, Grégory Estrade, directeur R&D chez Lira Network, et j'espère que tout le monde, public inclus, a mis son portable sur silencieux.
CPU, carré et petit utile.
Bonjour et bienvenue dans notre nouveau programme qui est carré, petit, utile.
Ouais, désolé pour la répétition, mais je ne sais pas si vous avez remarqué, mais chaque fois qu'une émission, et c'est un nouvel habillage et tout ça, émission télé ou radio, il répète 4 ou 5 fois le moto et puis après il coupe. Donc là, je l'ai fait un petit peu en quatrième vitesse pour shipper le programme avec un petit leader tranquille et tout ça. Donc,
On n'applaudit pas, c'est une première.
Non mais, vous vous prenez pour un public de télé ou quoi, là?
Donc nous vous proposons une émission radio sur le numérique au sens large, sur les gens qui sont derrière, sur ce qui fait changer en fait votre vie et ce que vous aimez, ce qui vous exaspère et surtout ce que vous pouvez changer. Et ceci dès la première qui est enregistrée ce soir, le 16 septembre, le 16-9, celle-là je ne l'ai même pas faite exprès. C'est-à-dire si on sera fort sur les clins d'œil, les symboles, les références, les blagues hasardouteuses et donc qu'on parlera à votre cerveau. L'idée est simple, au bout d'une heure, vous donner envie d'en savoir plus ou de carrément mettre la main à la pâte, la motivation digitale par les doigts dans l'engrenage. Donc bonjour, oui, je suis Daskritch. Dans la vie, je suis développeur, je suis aussi co-organisateur et crypto party et je suis animateur sur donc cette radio de Footrack depuis plus d'une vingtaine d'années. Avec moi et nous accompagne Eugène qui est derrière la station, mais on l'a baïonné, d'ailleurs il ne veut pas apparaître à l'image. Bonjour Eugène. Bonjour Solarus.
Bonjour. Alors moi, donc, dans la vie, je fabrique de l'Internet et j'aime bien bidouiller des choses, réparer, casser.
Et donc tu craftes des petits paquets et bonjour Gaël Serres.
Bonjour, je suis journaliste économique à Toulouse.
Donc bonjour à tout le public et bonjour à toi enfant du futur immédiat. Oui, toi qui nous prêtes attention. Bah oui, parce que dès que l'on parle de sous, de monnaie, de pognon, de transactions bancaires, à partir d'un certain chiffre, tout le monde écoute. Et quand on parle d'acheter, qu'on est passé du troc aux pièces, on oublie quelle révolution ce fut pour l'humanité. Non, je ne parle pas du quotidien que dirigea Jean Jaurès et qui lutta contre les grands comptes en banque, mais de tous les papas du monde qui n'avaient plus à chercher une enclume et un âne quand madame la future maman avait une brusque et irrépressible envie de poulet aux fraises à 2h du matin. Le fait d'avoir une unité de mesure commune entre tous les biens, produits et services, et bien évidemment impôts, a simplifié grandement les échanges, le commerce et la reconnaissance de dette. On pouvait enfin estimer à partir de combien le mauvais payeur allait vraiment perdre un bras. Puis arriva la lettre de change, l'ancêtre du chèque, qui permit de faire voyager de fortes sommes entre lointaines places de marché sans avoir à se trimballer plus d'or qu'un groupe de rap West Coast. Fini les risques d'attaque à main armée de la part des rappeurs de la côte Est. Yo. Ensuite, en dématérialisant complètement le papier pour le télégraphe, les banquiers utilisèrent la possibilité de crypter un message, ce qui en fut d'ailleurs le premier usage non militaire. C'est ainsi que la machine Enigma fut éprouvée par les banques allemandes dans les années 20, avant qu'Hitler ne la remilitarisa accidentellement suite à un pique-nique sur la Ruhr. Le cryptage permet de s'assurer que seul le destinataire lise l'ordre de virement, que seul l'émetteur autorisé puisse l'écrire, et que le montant ne soit pas modifié ou perturbé. En soi, c'est vraiment une signature. La révolution suivante arriva avec la carte de paiement. Dans une publicité de la Barclays Bank de 1966, une nymphette va faire ses courses à Londres, seulement habillée de son bikini et de sa Barclays card. On voit plus de gens de pub, malheureusement. Et comme une bonne partie de l'émission va parler de cartes bancaires tout à l'heure, je te propose un exercice. Alors pour cela, c'est très simple. Je te recommande de te munir dès à présent d'un papier, d'un crayon et d'une carte de paiement voire même de toutes celles qui sont présentes dans la maison. Tu vas voir, c'est très amusant. Et non, ça va pas te coûter un rond, sauf si effectivement tu ne penses pas à brûler la feuille de papier après, hein, ce serait un peu con. Bref, la notion de banque a elle-même évolué. Par exemple, la Banque de France n'est plus une institution privée tenue par une centaine de familles depuis belle lurette. Et depuis 2001, il n'est plus possible d'ouvrir un compte en banque au Trésor public. Oui, avoir une carte bleue avec le logo du Trésor public était tout à fait faisable. Un très grand moment quand un taxi t'annonce une facture éhontée avant de voir le logo à la Marianne. C'est ce que Philippe Noiret appelle « avoir la carte ». Revenons au métier de banquier. Enfant du futur immédiat, sais-tu pourquoi les agences bancaires construisent de monumentales salles des coffres ? À grands frais, car il faut esclaver des mètres cubes de terre, verser des mètres cubes de béton et d'acier, alors qu'au final, ces banques n'y stockent que des sommes en liquide tout à fait dérisoires et que la monnaie dématérialisée est bien plus pratique de nos jours. Bref, la réponse, elle est uniquement dans la confiance, ce que le client place dans sa banque. La salle des coffres de ton agence de quartier n'est qu'un effet de présentation, un peu comme le pâtissier qui est visible depuis la boutique quand il fait un énorme gâteau, ou le maître d'hôtel qui aiguise son grand couteau avant de te préparer une chiffonnade de jambon. Tu achètes une prestation que tu n'utiliseras jamais, mais qui te donne confiance dans le métier du conseiller bancaire en face de toi. Car oui, il n'y a plus de vrais banquiers dans les agences qui te reçoivent, mais des commerciaux multicartes capables de te vendre des assurances, des abonnements presse, des forfaits 4G, des bouquets de fleurs, et bien évidemment, des calendriers en fin d'année. J'espère qu'ils ne sont pas à poil. D'où la question de la confiance. Les banques ont fusionné avec les assurances, se sont diversifiées dans l'immobilier, la presse, la téléphonie mobile. C'est idiot, mais mon réflexe de programmeur expérimenté applique le premier principe dit solide. Alors, il y a 5 principes, et la première lettre, donc, c'est S. S pour Single Responsibility Principle. Chris, je le dis bien ? Non, évidemment. C'est donc, en fait, le principe d'une responsabilité unique. On va confier une chose, une seule chose à faire. Par exemple, la clé de ta maison va juste ouvrir ta maison et ne va pas ouvrir ta boîte aux lettres. Ou alors, il y a un problème. Si tu sais faire une chose, fais-le très très bien. Ne te disperse jamais. Moi, par exemple, je ne passe jamais le balai. Mais je sais très bien ouvrir les canettes de bière à partir de là. Ce que je ne reprocherai jamais en tant que consommateur, c'est que les principes de base de la sécurité informatique ne sont plus totalement respectés par les banques. Rien que le système de paiement sans contact frise le ridicule en termes de sécurité pour ton argent et pas que de poche. Et comme certaines banques insistent très lourdement pour une fonction qu'elles maîtrisent mal, elles pourraient en payer la dette technique au prix fort. Tu as recherché la notion de dette technique sur Wikipédia, t'as l'habitude. Et quand une banque perd la confiance de ses clients, ceux-ci se ruent au guichet pour en vider leur compte. Cela s'appelle un bank run, non, je le prononce encore mal, et annonce quasi inévitablement la mort d'un établissement de crédit faute de... Crédit, c'est une répétition, je suis désolé. Raser de près le pronom CTLM, à tel point que les modes de paiement parabancaires reviennent en force, comme les monnaies de proximité, les programmes de fidélité, comme les miles des compagnies aériennes, et le Bitcoin, qui mérite une émission à lui tout seul, donc on ne va absolument pas en parler ce soir. Mais il est alors quasi impossible d'emprunter, sauf si on considère par exemple Kickstarter comme étant une nouvelle manière de se financer à crédit. La monétique est devenue le moyen le plus courant en France, au point que nous sommes moins habitués à payer de fortes sommes en liquide, contrairement aux États-Unis, au Royaume-Uni, à l'Allemagne et à d'autres pays développés. Tiens, par exemple, j'ai un ami qui était installé à Tokyo et qui se sentait pas tranquille du tout quand il a payé une année de loyer en avance à son bailleur en liquide, alors que là-bas, c'est une pratique en fait qui est extrêmement courante. En France, le paiement en espèces, sonnante et trébuchante, sur des montants de 3 chiffres et plus avant la virgule, est devenue, en l'espèce, l'exception. Ah, elle est nulle, ce jeu de mots, ok, on la coupera au montage. Et d'ailleurs, sais-tu que les paiements en liquide sont plafonnés en France, désormais à 1000 euros maximum. Et pourquoi ? Pour lutter contre le terrorisme. Or, il suffit de voir suffisamment de films d'action pour savoir que les terroristes qui achètent des missiles nucléaires avec des mallettes bourrées de billets ne s'occupent pas d'un petit détail juridique ou même de remplir un constat d'accident à l'amiable quand ils tamponnent une voiture sur l'autoroute. Enfant du futur immédiat, il faut quand même reconnaître que la carte bancaire est une commodité monumentale qui ne fait pas ses 50 ans d'âge et qui s'est démultipliée par téléphone, par courrier, par Minitel, par Internet et désormais par smartphone. Pas mal pour une carte de plastique grande comme une carte à jouer.
Je rêve d'une banque qui, pour mon prêt, me répondrait illico presto, immédiat, tout de suite, genre, tout à fait. Et attention, sans mauvaise surprise à l'arrivée, pas de truc qu'on ne savait pas qu'il y avait écrit derrière, en tout petit, je ne savais pas, oh là là, non. Avec même des compensations, si elle ne tenait pas ses promesses. Et sinon, c'est pas cool.
Ça y est, enfin je suis tranquille, je sais où je l'ai mis.
Là-bas, il est bien.
On s'occupe de lui.
Et j'ai confiance.
Et à ton avis, où je l'ai mis? Regarde là, où je l'ai mis mon argent, hein?
La première fois que je suis venu ici, j'ai dit oh.
Elle est où la file, bah, je ne suis de service?
Pour que j'attrape le service. Mais qui neige? Ici tout le monde passe, libre le crédit, libre le virement.
Il passe.
Ton argent ici, c'est pas il est là et ça y est. Non, il y a une personne qui s'occupe de moi, je la connais. Elle me connaît. Et elle me donne des petits conseils qui rapportent. Oh là, depuis mon argent, t'es trini.
Ils sont tellement rapides qu'avant que le problème y tombe, je te trouve une solution.
Crédit du Maroc, gagner à mieux nous connaître.
Gad Elmaleh en 2003. Je ne sais pas s'il parle comme ça d'ailleurs à son agent HSBC en Genève.
All the pretty girls in the world, and the ugly girls too. That's to me you pretty anyway, baby. You give me your number, I call you up. You act like your pussy don't interrupt. I don't have no trouble with you fucking me, but I have a little problem with you not fucking me. Baby, you know I'ma take care of you, cause you said you got my baby and I know it ain't true. Is it a good thing? No, it's bad, bitch. For good or worse, makes you switch. So I walk on over with my crystal. Bitches, niggas, put away your pistol. Dirty won't be having it in this house, cause bitch, I'll cripple your style. Now that you heard my charming voice, you couldn't get another nigga. The coochie won't get moist. If you wanna look good and not be bummy, yo, you better give me that money.
Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty. Baby, I got your money, don't you worry. I said, hey, baby, I got your money.
So I glanced at the girl, girl glanced at me. I whispered in the air, you wanna be with me? You wanna look pretty though in my video. Oh, dirty on the hat and I let you all know. Just dance if you caught up in the Holy Ghost trance. If you stop, I'ma put them killer ants in your pants. I'm the ODB as you can see. FBI, don't you be watching me. I don't want no problems cause I put you down in the ground where you cannot be found. I'm just dirt dog trying to make somebody. So give me my streaks and give me my honey. Radios play this all day, every day. Recognize I'm a fool and you love me. None of you know, better look at me funny. No, you know my name down, give me my money.
Hey, dirty.
Sing it.
Baby, I got your money.
Sing it, girls.
I said, hey.
Just sing it right now.
Baby, I got your money.
If 31 is hey, money, I think y'all should give him his money.
Baby, I got your
That's
money.
That's how I like you, girl.
Like this all night. Bitches, put your ass out, let me hold it tight. You're looking at my wrist saying, this so nice. The price, bitch, is diamond shining disco line. You better help me solve my problem. I'ma get this money and rob them. Lucky dog when I won the lotto. Ran up on my car, I'm carrying Rollo. But hold on, you can call me dirty and then lift up your skirt. And you want some of this dirty. God made dirt and dirt bust your ass. Stop annoying me, yeah, play my music loud. And take the bats and old dirty to move the crowd.
You say he had his dick in his mouth. Eddie Murphy taught me that back of the
but
house.
But give him the money.
Hey, dirty, baby, I got your money. Don't you worry. I said, hey, baby, I got your money. Hey, dirty.
I wanna be here.
All the Cyberstar accompagné de Kellys, Got Your Money. Et maintenant, Solarus, qu'est-ce que j'ai dans la main?
Une carte bleue.
Eh non, je ne l'ai pas.
Ah, zut.
Mesure de protection.
On va parler de l'histoire de la carte bleue.
Mais je t'en prie.
Allez. Donc, à l'heure d'Internet, les pièces, les billets, les lingots d'or n'ont plus la cote. Quoique les lingots d'or dans une valise. Utilisée depuis des siècles, la monnaie fiduciaire laisse petit à petit place au paiement électronique. Et l'outil le plus utilisé pour ces paiements électroniques, c'est la carte de paiement. En France, on a d'abord connu les livrets. Les plus de 30 ans se souviennent du fameux livret A sur lequel le banquier ou le postier écrivait à la main chaque opération de retrait ou de dépôt. Mais tout ça s'est fini grâce à la carte de paiement. L'histoire des cartes de paiement trouve son origine au début du XXe siècle, avec Western Union, une société du secteur télégraphique, qui cherchait un moyen de transférer de l'argent à travers les télégrammes. Mais ce n'est qu'après la Seconde Guerre mondiale que la carte de paiement trouvera vraiment son envol. En 1950, le Diners Club lance sa carte de paiement sous forme d'un petit carnet indiquant les opérations de crédit et de retrait pour payer ses ardoises au restaurant.
Tu veux dire comme si on allait payer avec son carnet de livret A ?
Ouais, un peu. En 1951, les premières cartes de paiement en carton émergent, suivies en 1957 de la carte en plastique American Express. Ces cartes sont caractérisées par un numéro qui se décompose de la manière suivante. Le premier chiffre est le Major Industry Identifier. Il correspond au type d'entreprise qui a émis la carte. Par exemple, 6 pour le merchandising, 7 pour les compagnies pétrolières, 8 pour les télécommunications et 9 pour les usages nationaux. Et pour les 5 premiers, bah, qui dit premier, dit top, dit 5, dit top 5.
Le top 5. Le top numéro 4.
Non,
non. Numéro 5. Donc le numéro 5 était utilisé par la banque et les finances.
Numéro 4.
Le 4 aussi était utilisé pour l'industrie de la banque et des finances.
Numéro 3.
Le 3 pour les voyages et les loisirs.
Numéro 2.
Le 2 pour les compagnies aériennes.
Numéro 1.
Et le 1 tout aussi pour les compagnies aériennes.
En haut du classement. Ça veut dire que c'est eux qui ont vraiment créé l'industrie ?
Oui, 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 on va le voir tout de suite après. Les compagnies aériennes ne sont pas étrangères à la création de la carte de paiement. Donc, ça, c'est le premier chiffre. Pour les six chiffres suivants, que l'on appelle l'INN, l'Issuer Identification Number, ainsi, les numéros commençant par 4 sont des Visa, les Mastercard commencent par 51 et 55, les American Express par 34 et 37. Les 9 chiffres suivants correspondent à un numéro de compte client, tandis que les 2 derniers chiffres sont une somme de contrôle selon l'algorithme de Loon. Ça se trouve assez facilement sur Internet, c'est un petit algorithme qui vous fait prendre les premiers chiffres, vous faites des additions, et à la fin, si le numéro de carte est bon, vous trouvez les 2 derniers. Avec l'invention du TPE, le terminal de paiement électronique, le système...
Non, c'est avant.
Avant l'invention du TPE, le système utilisé est dit du sabot à papier carbone.
T'as connu ça, toi ? Quand t'as fait les recherches.
Non,
connu...
on voit ça dans les vieux films.
Ouais, mais moi, je l'ai connu, c'est le gros truc qui fait... C'est exact... Et t'es là, tu comprends pourquoi la carte, elle est en relief. Mais alors, tu te dis, qu'est-ce qu'elle prend, quand même ?
C'est exactement ça. En fait, le numéro de la carte est imprimé en relief par une technique dite de l'embossage. La carte est alors passée dans un sabot qui capture les numéros en relief de la carte sur un papier carbone, ce papier étant signé par le client. Ce système pourra vous sembler étranger, pourtant c'est le système qui a longtemps été utilisé en France et qui est encore utilisé dans d'autres pays, même les plus technologiquement avancés, tels les États-Unis. Plus tard, les cartes bancaires se voient ajouter une bande magnétique. Cette bande magnétique est aujourd'hui codifiée par la norme ISO 78-13. Cette bande magnétique constituée de 3 pistes. La première piste dit IATA, la seconde dite ABBA et la troisième dite Thrift.
Money, money, money.
Non, pas c'est ABBA là. L'IATA est l'Organisation Internationale du Transport Aérien. En effet, cette bande servait aux réservations de vols sur certaines compagnies aériennes. L'ABBA est l'Association Américaine des Banques. C'est donc la piste ISO 2 qui contient les informations nécessaires aux paiements et transactions bancaires. Cette piste est donc naturellement la plus utilisée, voire la seule, par les terminaux et les automates bancaires. La dernière piste, appelée Thrift ou Mintz, est à usage libre. Théoriquement, elle peut être programmée pour n'importe quel usage, par exemple accès à un bâtiment. Cependant, je vous déconseille d'essayer ça avec votre carte bancaire. Dès lors, pour payer, plus besoin de papier carbone. les sabots deviennent magnétiques et il faut y glisser la bande magnétique de la carte pour payer. Si ce système est devenu rare en Europe, vous pouvez encore le rencontrer aux États-Unis ou ailleurs. Ce système était plus pratique, mais du point de vue de la sécurité assez faible, car les bandes pouvaient être facilement lues et recopiées. En 1986, la puce apparaît, une invention française de M. Roland Moreno. À l'époque, la French Touch, ça avait de la gueule.
Ouais, c'est l'inventeur de la théorie du bordel ambiant hein, aussi.
C'est ça, super bouquin.
Fallait pas dire que c'était un bouquin.
La puce se compose bien souvent d'un processeur 8 bits de quelques kilo-octets de RAM et de quelques octets de RAM. Si les cartes étaient équipées des mêmes éléments qu'un PC, elles avaient également leur système d'exploitation embarqué permettant de faire fonctionner le tout. Avec la puce, la sécurité va se renforcer. Les encarteurs, les fabricants de cartes, vont ajouter en 87 un hologramme anti-contrefaçon. Ce n'est qu'en 90 que le fameux code secret fera son apparition. Avant lui, n'importe qui pouvait utiliser une carte, même volée. En 1992, la puce est généralisée sur toutes les cartes françaises et c'est en 96 qu'on ouvre la première hotline dédiée aux oppositions sur les cartes volées. La carte bancaire à puce s'est démocratisée en Europe pour les paiements et les retraits, remplaçant de plus en plus l'argent liquide. Avec l'arrivée d'Internet, la carte bancaire était l'outil tout désigné pour effectuer des paiements à distance, comme à l'époque de la Western Union et du Télégraphe. En communiquant ces numéros de carte bancaire, on peut payer sur Internet toutes sortes d'achats. C'est simple, trop simple. Et les banques doivent prendre en charge les paiements frauduleux, notamment quand des numéros de carte sont interceptés ou volés dans une base de données. Pour le paiement par Internet, Visa et Mastercard ont respectivement ajouté le CVV et le CVC, un code à 3 chiffres à l'arrière de la carte, pour éviter sa récupération avec un sabot carbone, et non présent dans la piste magnétique. Cette protection s'avère efficace contre les credit card generators, donc les générateurs de cartes bleues, mais ne règle pas le problème des cartes volées. Face à cela, les banques ont essayé d'imposer des outils de sécurité supplémentaires, comme le 3D Secure, où le fait intervenir l'émetteur de la carte, c'est-à-dire la banque du client, qui se doit de vérifier l'identité du porteur de la carte. Cela se matérialise par exemple par l'envoi d'un code par SMS, mais ce type d'outil souvent contraignant n'est pas implémenté chez tous les marchands. Il reste donc possible de trouver un marchand en ligne qui acceptera une transaction par carte bancaire sans aucune autre vérification. Sa dernière évolution est le paiement sans contact avec le NFC, le Near Field Communication. Ainsi, pour des paiements d'un faible montant, plus besoin de taper son code secret ou d'insérer la carte dans le TPE. Il suffit de la passer à proximité. Comme à l'époque de la bande magnétique, le choix de la simplicité a été fait au détriment de la sécurité. L'histoire technologique est un éternel recommencement. Au final, il est difficile d'arriver au bon équilibre entre la sécurité et la facilité d'utilisation, car l'une se fait toujours au détriment de l'autre. De nouvelles pistes technologiques sont à l'étude, comme la biométrie ou les objets connectés. Il y a fort à parier que les années à suivre vont être source d'innovation en ce sens. Thank you.
Medeski Martin Unwood, $10 High.
Alors aujourd'hui, on va parler maintenant donc des cartes de paiement sans contact. Vous savez, ces cartes bancaires sur lesquelles on peut voir des petites ondes stylisées dans le genre Wi-Fi. Ces cartes qu'il suffit de poser sur un lecteur approprié pour réaliser un paiement de moins de 20 euros sans même s'échiner à entrer les 4 chiffres de son code secret. C'est vrai que c'est difficile tous ces numéros à retenir de nos jours. Un de moins, ça ne nous ferait pas de mal. Avant d'aller plus loin, un petit point technique s'impose, même si Solarus nous en a déjà parlé. Les cartes de paiement sans contact s'appuient sur la technologie NFC pour Near Field Communication, qui sont dérivées de la RFID, Radio Frequency Identification. La NFC est un procédé par lequel deux produits communiquent entre eux automatiquement quand ils sont proches l'un de l'autre. Je vous épargne les détails. Les services NFC ou CPP, hein, parce que comme on est en France, on peut dire communication en champ proche, sont apparus dès 2004 en Corée et au Japon, et à partir de 2011 en France. Ils ont de nombreux usages, comme donner accès à des locaux, ou bien ils sont présents aussi dans les passes Navigo, dans les clés de voiture, dans les tablettes et les portables. Alors les banques ont flairé le bon coup, parce qu'elles ont vu une possibilité de réduire les coûts liés à l'usage des espèces pour les petites transactions. Et du coup, elles misent beaucoup sur le NFC et les cartes qui ont cette option, en s'attendant à ce que la paresse de leurs clients, du coup, les incite à utiliser ces nouvelles cartes qu'elles essayent un peu de nous imposer. Ça marche d'ailleurs, puisque à l'heure actuelle, 34,7 millions de cartes sont équipées, soit 54% des cartes en circulation en France. Il n'y en avait que 11 millions en 2013, c'est-à-dire si elles y vont avec entrain. Alors je dis imposer parce qu'on n'a pas vraiment le choix en tant que consommateur. Par exemple, lorsque j'ai reçu ma nouvelle carte il y a quelques semaines, ma banque m'a bien fait comprendre que cela ne servait à rien d'insister pour avoir une carte sans cette option. Si ça vous gêne, vous n'avez qu'à la désactiver sur le site internet, on m'a dit. Bon, oui mais voilà, moi je ne suis pas un grand connaisseur ou expert en technologie, mais j'ai lu certaines choses qui m'inquiètent au sujet des cartes de paiement sans contact. Cette technologie ne serait pas sécurisée, des petits malins auraient même réussi à craquer le système pour récupérer toutes les informations contenues dans une carte bancaire. Pas de souci, m'a répondu ma banque, qui voulait vraiment me rassurer, tout cela est réglé aujourd'hui, on ne peut rien vous piquer avec ça. Dormez, braves gens, on s'occupe de tout. Autant vous dire que si j'avais été convaincu par ce discours bancaire, je ne serais sans doute pas là à parler, vous ne seriez pas en train de m'écouter jacter à ce moment. Mais c'est pour ça qu'on a invité aujourd'hui Grégory Estrade, qui est responsable de la R&D à Lyra Network, une entreprise toulousaine qui est spécialisée dans la sécurisation des transactions de proximité et en ligne. Et avec lui, on va discuter de tout ça dans quelques instants. Bonjour Grégory.
Bonjour.
Alors, tu es aussi connu sous le pseudo de Torlus. Tu es un bidouilleur informatique. Alors, je dis bidouilleur, c'est pas du tout péjoratif. On m'a dit que l'un de tes passe-temps, c'était le rétro-computing, c'est-à-dire la remise en marche de vieux ordinateurs des années 80. Je me trompe pas ?
Tout à fait.
Tout à fait. Bon, c'est pas pour ça qu'on t'a invité aujourd'hui, même si ça pourrait être un sujet intéressant. Je disais donc que tu étais un bidouilleur de première, et lors d'une crypto-partie en 2014, tu avais bricolé un capteur qui t'a permis de réaliser une expérience autour des cartes de paiement sans contact. Alors, est-ce que tu pourrais m'expliquer cette expérience et me dire pourquoi ça t'est venu, cette idée ?
Oui, en fait, en 2012, un chercheur en informatique du nom de Renaud Lifshitz avait fait une petite expérience avec du matériel qui devait coûter à peu près une trentaine d'euros à l'époque, de faire la lecture d'une carte NFC, de voir un peu à quel point elle était verbeuse. En 2012, c'était vraiment la foire. On pouvait récupérer le nom du porteur, le numéro de carte, ainsi que la date d'expiration, et ce qui était assez amusant, la liste des retraits et des débits qui avaient été faits et enregistrés sur la puce.
Donc tu as voulu tester ça, en fait, si
voilà.
C'est vrai.
Donc je suis venu en 2014 avec un matériel similaire, en me disant, bon, il y a quand même peu de chances que ça marche encore. Et j'ai pris quelqu'un dans la salle qui m'a gentiment prêté ses cartes, que j'ai posées sur mon dispositif, et là... le murmure sourd dans la salle, la carte a révélé tous ses secrets, et effectivement, cette histoire de retrait des retraits à certaines heures de la nuit pour un certain montant, c'est quand même des fois.
Jeune homme avait des choses à cacher plutôt.
Peut-être.
Donc la salle a été surprise de l'étendue des choses qu'on pouvait apprendre avec avec ton capteur bricolé.
Tout à fait.
Okay. Et toi, t'étais surpris ?
On aurait été en 2012, j'aurais pas été surpris outre mesure, mais là, 2014, on pouvait quand même légitimement se poser la question de savoir si les banques avaient pris en compte cet état de fait.
Alors pourquoi, dès le départ, quand elles ont mis sur le marché des cartes de paiement sans contact, pourquoi elles n'ont pas mis le niveau de sécurité adéquat ?
En fait, il faut savoir qu'il existe deux standards. L'ISO 7816, si je me souviens bien. Donc, il y a un standard qui est utilisé dans le paiement avec contact. Donc là, avec contact, on est dans un terminal de paiement, on est dans un environnement sécurisé, pas de moyen d'interception facile. Ensuite, le standard pour la lecture en NFC, c'est ISO 14443, si je me souviens bien. En gros, c'est plutôt du formatage de messages et de communication. Et en quelque sorte, j'ai envie de dire que ces deux standards ont été un peu, par rapidité d'implémentation, un peu scotchés ensemble. Si bien que des choses qui ne devraient pas sortir du cadre d'un paiement avec contact se sont retrouvées disponibles sans contact.
D'accord, donc d'où le fait qu'il y ait des failles en fait.
Oui, à proprement parler, on ne peut pas parler de faille, mais plutôt d'une sorte de négligence ou de volonté d'aller rapidement. Il faut savoir que maintenant, dans toutes les cartes qui sortent actuellement, en tout cas, j'ai envie de dire, à peu près toutes les cartes, parce qu'on a encore eu des exceptions un peu curieuses par des banques qu'on pourrait qualifier de mauvais élèves, toutes les cartes récentes n'offrent qu'un seul point d'entrée, qui est une sorte d'échange de clés de cryptographie qui forcément n'est accessible que si on a un terminal agréé qui démarre la transaction avec la carte de paiement.
D'accord. Mais du coup, les négligences qu'il y avait au début, est-ce que des malfaiteurs en ont profité ?
Je dirais que de manière massive, non. Parce que bon, c'est quand même de la communication à courte distance. On a vu des reportages un peu sensationnalistes où quelqu'un qui se baladerait avec un peu un équipement dans un sac à dos dans le métro récupérerait l'intégralité des cartes présentes par les gens portées par les gens dans la rame. Ça reste à mon avis du domaine du fantasme parce que une lecture NFC c'est quand même pas très rapide. Et le standard, la portée, c'est une vingtaine de centimètres, quoi. Donc, d'accord. Ça serait quand même assez dur à exploiter de manière
efficace
et facile.
Donc, c'est théoriquement possible, mais pratiquement un peu compliqué à mettre en œuvre.
Oui, voilà, c'est la fraude massive comme ça. Je n'y crois pas. Enfin, je ne pense pas que ça a été vraiment exploité. Par contre, la fraude unitaire, oui, c'est toujours possible. Oui.
Ok. On va faire une petite pause musicale et on reviendra sur ce sujet dans quelques instants.
Love to steal your money. Some
The Clash, Bank Robber.
Et donc on parlait du paiement sans contact et des négligences bancaires qui avaient conduit à ce qu'il y ait des petites, pas des failles, mais des petits soucis, des petits pépins de sécurité. Et donc notre invité, Grégory, qui nous disait que ça avait été réglé. Alors est-ce que les banques ont vraiment relevé le niveau de sécurité depuis le lancement de ce produit?
Alors oui, dans le sens où les erreurs, enfin, la divulgation abusive d'informations a été corrigée. Par contre, il existe maintenant de nouveaux types d'attaques, des attaques de type man in the middle, donc qui sont facilement réalisables dans le cadre d'un laboratoire. Où le principe est le suivant, on va mettre un téléphone Android par exemple, proche de la carte, un téléphone Android proche du terminal de paiement, et en fait on va capturer l'échange qui se passe entre les deux appareils. C'est-à-dire que avec une lecture passive, on peut uniquement recevoir, on va dire, une invitation à s'échanger des clés que forcément on n'a pas. Avec l'attaque de type man in the middle, les deux équipements, donc le terminal de paiement d'un côté et la carte de l'autre, vont plus loin, et donc on peut extraire des données échangées entre ces deux éléments, quelques informations. Après, j'ai pas fait encore l'étude de savoir quelles étaient les données échangées. Est-ce que les données qui passeraient en clair seraient exploitables pour, on va dire, dans le cadre de la fraude?
Mais alors du coup, ce type d'attaque, il a été découvert en laboratoire ou il a été découvert suite à une attaque réalisée sur une carte?
Oh non, c'était modélisable en laboratoire, on va dire, depuis très longtemps. Déjà que dans le cadre d'une attaque simple... est déjà compliqué à mettre en œuvre. Alors une attaque de type man in the middle dans un contexte d'utilisation de paiement. Là, c'est carrément de la science-fiction.
D'accord, à ce point-là. Et tu dis pas ça parce que tu travailles dans le service bancaire, enfin dans le milieu bancaire.
Ah, du tout, du tout. En fait, il faut savoir qu'il y a quand même un long historique de pratiques de sécurité qui ont été qui sont mises au goût du jour. C'est-à-dire que, par exemple, si on revient dans les années 80, quand la carte bancaire a commencé à être déployée, la carte bancaire était mise dans les terminaux de paiement, donc était connectée par modem à leur banque. Le temps de communication était très long, les puissances des CPU, des terminaux de paiement étaient vraiment faibles. Donc on sacrifiait de la sécurité pour du confort d'utilisation. Maintenant, la sécurité, c'est pas quelque chose d'absolu. C'est quelque chose, on va dire, qui représente une difficulté d'exploiter des informations qu'on souhaite garder confidentielles au regard des attaques qui peuvent exister pour aller chercher ces informations. Donc en quelque sorte, c'est une course. C'est quand on estime que le niveau d'attaque est suffisamment difficile pour que n'importe qui, va dire, avec des connaissances moyennes, ne puisse pas attaquer le système, alors on considère que c'est suffisant.
D'accord, mais pour autant, il y a toujours de nouveaux types d'attaques, comme pour les virus informatiques, ou... Enfin, je veux dire, l'imagination humaine, elle n'a pas de limite dans ce cas-là, quoi. Il y a de nouveaux trucs qui apparaissent.
Oui, tout à fait. Bon, après, si on élargit ça à la sécurité informatique en général, bon, voilà, c'est... on sait qu'il faut changer les clés des certificats SSL avec des longueurs de plus en plus des longueurs de clés de plus en plus longues. On sait qu'il faut éliminer des algorithmes parce qu'ils sont reconnus comme étant trop faibles à une utilisation on va dire raisonnable au 21e siècle. Il y a eu tout un ensemble de failles sur SSL, donc je pense à Heartbleed, à Poodle et d'autres qui ont mis à mal ces on va dire une partie de la sécurité d'Internet. Bon, il faut savoir qu'en fait, quand la sécurité des sites web est compromise par des problématiques de certificats et de chiffrement un peu faibles, on a un certain nombre d'équipements qui sont censés garantir la sécurité qui s'appuient sur les mêmes standards dans les banques ou en communication avec d'autres systèmes, et donc bon, là on peut avoir raison d'avoir peur.
Mais pour revenir aux cartes, du coup, je lisais un article publié par le CNRS en juillet 2015, donc c'est tout récent, où les chercheurs qui étaient des experts en cryptographie disaient qu'il y avait encore plein de soucis à se faire et que c'était vraiment pas sécurisé. Et dans une des mesures de sécurité qu'ils proposaient, ils parlaient de Distance Bounding Protocol. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est et est-ce que ça te paraît une mesure appropriée?
En fait, si je me souviens bien, le Distance Bounding Protocol, c'est en gros la mesure de physique de la distance qu'il y a entre l'émetteur et le récepteur, pour savoir si en fait l'émetteur auquel on s'adresse est bien à la bonne distance à laquelle on l'attend et n'est pas placé soit vraiment trop près, soit vraiment trop loin. Donc en fait, c'est vraiment une mesure physique. Qui est quand même difficile cette fois à contrecarrer. Mais bon, sait-on jamais.
Excusez-moi d'intervenir dans l'interview, mais la NFC a été vendue comme étant plus simple. Là, tout d'un coup, il va falloir capter plus ou moins facilement. Ça va être à peu près aussi facile que régler son antenne dans les années 80 de sa télé, quoi.
Ah non, pas du tout. Pour le consommateur, ça n'a rien changé. C'est juste au niveau de l'implémentation où les deux systèmes, que ce soit le logiciel qui soit embarqué dans le Secure Element de la carte ou que ce soit le lecteur, vont juste faire des vérifications supplémentaires.
Bon, du coup, à t'entendre, on dirait qu'il n'y a aucun problème sur les cartes de paiement sans contact. Est-ce qu'il n'y a pas encore des petites pétouilles quand même, si on a tous les deux une carte de paiement sans contact, on s'approche tous les deux du capteur, on va tous les deux être peut-être débités. Est-ce qu'il y a encore des choses de cet ordre-là qui existent au moins?
Ah oui, oui, ça existe. Ça existe. Il y a eu des cas avec. Il y a des cas où si j'approche ma carte trop près on va dire, du lecteur, alors que c'est pas à moi de payer, c'est moi qui risque d'être débité, non pas le. Celui qui.
Il faut s'écarter du payeur alors.
Voilà, ou alors il y a eu des histoires avec, avec les cartes Oyster qui servent à se balader à Londres. Des personnes avaient leur carte Visa et leur carte Oyster dans leur portefeuille. Ils passent ça près de la borne de lecture pour rentrer dans le métro et boum, les deux sont débités.
Ok, bon. Ça fait pas plaisir, mais. Ok. C'est des choses, j'espère, qu'ils seront réglées peut-être ou...
tout ce qui est distance bounding, ça permet peut-être de le faire. Ensuite, l'approche de l'Apple Pay n'est pas mal.
C'est quoi?
Parce qu'on accompagne, on va dire, une transaction NFC d'une action utilisateur, à savoir mettre son pouce sur l'emplacement du Touch ID. Je serais plus sceptique sur la nature du Touch ID dans sa capacité à faire une identification de formel du porteur, parce que ça, on est en tout début, et je pense que il est possible qu'on ait des surprises, mais au moins on a l'action qui déclenche. Ça aurait pu éviter cette histoire de c'est moi qui paye dans le restaurant à la place d'un autre, quoi.
Ok. Est-ce que toi tu utilises une carte de paiement sans contact?
Oui. Ouais.
C'était un petit oui. Ce oui vous est payé par la BNP ou... Ok. Bon, merci. Je crois qu'on a fait le tour. Alors, je ne sais pas si ça convaincra les convaincus et les auditeurs, mais en tout cas, on leur a apporté quelques informations.
Ouais, juste pour préciser un peu, il existe tout un ensemble de standards qui vont sortir dans le domaine de la banque, que ce soit en paiement de proximité ou en paiement à distance. Je pense notamment à la tokenisation OMV, où en gros le but c'est de ne plus faire passer un seul numéro de carte réel en clair sur les réseaux. Je pense par exemple, c'est un peu similaire à la e-carte bleue, où en gros on génère un numéro de carte pour un paiement. Bah là, la tokenisation OMV, c'est la généralisation de ce principe de e-carte bleue à l'ensemble des transactions.
Et ça sera applicable aux cartes NFC?
Oui, bien sûr, il n'y a pas de...
Ok, bon. Eh bien, merci pour ces informations et puis à une prochaine.
Merci.
And cast the first stone after you, whose last is doomed. He's the worst known. That'll have your boom blown or either thirst bone. Rockets won't burst clones, just don't curse the groan. On his own microphone, bring it everywhere he go, so he could bring it to you live in stereo. Panic, can't understand it, panic. The underhanded ran it, planned it, and left him stranded. The best, any who profess will be remanded. Yes, sir, question listen to be candid. Granted, I don't think we can handle a style so rancid. He flipped it like mad and did the old dad. I wrote this rhyme lightly off of two or three heinies, and boy was they fine, G. One black, one Spanish, one Chinese. It keeps the woody shiny around like a pine tree. Don't sign me, I'm about to get a meal without him. Crowd him off the shelf, he's the villain. And what about him? So, man, he's a jerk and you don't know him. Man, how he expand works but won't show him. Poor guy, what a sight for old sore four eyes. Now hook me with two apple pies and a small fries. All rise, so far odd as a roofie. So raw, break it down and make quadruple. It's crucial, you can see it in his pupil. And this time when he get it, he'll waste it on something useful. Like getting juiced off a deuce, deuce or cokey. Keep it low key, known to pull a okie dokie. Silly goose, doom is too jokey. Damn, he could really use a room or a whole key. E-gas, he got a new style, she start three fads. True that, she bad, I wonder do she come with knee pads. What a call.
Magellan, Money Folders, un remix par Fortet. For the brawl. Yeah, yo.
Non, on remonte un peu le temps que je saisisse mon iPad et tout. Les premières cartes bancaires étaient une sorte de gros tampon, les chiffres embossés pour les commerçants et une modeste piste magnétique à l'arrière. Avec l'arrivée de la carte à puce, invention française cocorico, s'il vous plaît, de Roland Monero, encore une fois, on l'aura cité, il devenait possible d'associer plusieurs services, d'y mettre différents logiciels, d'avoir suffisamment de mémoire pour y stocker en fait différents services, d'y mettre plusieurs logiciels, d'avoir les dernières opérations et le solde en cours du compte associé. L'Allemagne lança en 1996 la Geldkarte. Chris, je le prononce bien ? Non, toi tu parles pas allemand, pardon. Un système de porte-monnaie virtualisé, principe qui fut développé en Belgique sous le nom de carte de paiement Proton. Dans un accès de lucidité belgicaine qui ferait mentir bien des humoristes franchouillards, les banques belges préférèrent ajouter l'application dans la carte bancaire déjà existante plutôt que de créer une autre carte de paiement à côté et rajouter de l'épaisseur à vos portefeuilles. L'idée était de simplifier le paiement et surtout la gestion de la caisse pour le commerçant. Moins de petites monnaies à trimballer signifiait moins de corvées de pièces pour le boulanger et moins de risques de braquage. De même, l'introduction de la télécarte avait considérablement réduit le nombre de dégradations de cabines téléphoniques. Alors j'explique, la télécarte, c'était un peu comme la carte bancaire, mais tu l'utilisais en fait pour payer avec dans des cabines qui ressemblaient à celles du Dr Who, mais transparentes sur les côtés, avec un téléphone, avec un câble dedans. Et ça te coûtait 3 francs la minute pour appeler en local.
Ouais, non, mais de toute façon, les plus de 25 ans connaissent.
Ah, ouf, j'ai eu peur. La carte de micro-paiement intéressait très fortement tous les opérateurs de distributeurs dans la rue et les municipalités ayant installé des parcmètres. Il ne fallut pas longtemps pour que les banques françaises décident de faire traverser le Quiévrain à cette application et d'inventer le service à tout va. Le groupement Carte Bleue décida donc d'expérimenter en France en 1999 une application hébergée sur la carte bleue pour faire des petits paiements jusqu'à 30 euros et sans code secret. Et voilà donc Monéo. En 2005, le service fut proposé à tous les possesseurs de cartes bleues. L'application Monéo fut aussi l'occasion d'ajouter de la monétisation à des documents identifiants, comme par exemple les cartes d'étudiants. Ainsi, dans un certain nombre d'universités, celles-ci incorporèrent une puce bancaire à la carte d'étudiants. Il y en a eu, je crois, plus de 2 millions qui en sont sortis comme ça. L'idée était là aussi de simplifier la maintenance des monnayeurs des laveries, resto U et photocopieurs, malheureusement au risque de créer un mélange des genres entre un document délivré par un établissement public et un système de paiement comme le proposent les clubs de vacances. Bon, ne me faites pas dire que certaines universités sont des clubs med. Je vais encore avoir des plaintes du syndicat d'initiative de la faculté du Mirail pour les étudiants en recherche d'un avenir post-bac, le CIF Merabarp, comme quoi je les aiderai pas dans leur réflexion par mes sous-entendus, mais bon, c'est pas le principe. Mais le système Monéo reposait sur plusieurs postulats. D'abord que tout le monde ait une carte bleue, ensuite que chacun fasse la procédure spécifique pour créditer son compte Monéo depuis son compte personnel, et enfin que les terminaux bancaires permettent de choisir par un écran supplémentaire avant de demander le code secret s'il faut débiter le compte Monéo ou le compte courant.
Plantage.
Le premier problème, c'est qu'il fallait facturer au commerçant l'achat d'un nouveau terminal de paiement, ce qui se facture entre 700 et 1000 euros. Avec aussi la location d'un identifiant de site de paiement, ben oui, c'est pas gratuit, on fait de la banque. Ajouter à cela les 2% de commission bancaire pour tout paiement, fût-il de 95 centimes d'euros, soit le prix d'une chocolatine. Oui, je sais, j'ai dit Mirail et chocolatine, oui, on est bien à Toulouse. Les 10 terminaux de paiement devaient donc proposer systématiquement si le paiement était à débiter du compte normal ou du compte Monéo. Un écran supplémentaire au paiement qui ne simplifiait pas vraiment l'usage du terminal, alors qui parfois créait des confusions peu agréables pour le commerçant, évidemment en période de rush. Mais le plus grand fail de ce système résidait en fait paradoxalement dans l'absence de monnaie à manipuler. Connaître le crédit encore disponible sur le compte Monéo obligeait donc de passer par un distributeur bancaire, si possible de sa propre agence bancaire. Sinon, il fallait recréditer sa carte à partir du terminal de paiement d'un commerçant, et ça ralentissait d'autant le processus. Devant le peu d'entrain, les banques ont commencé non seulement à offrir le service Monéo à tout possesseur d'une carte bleue, mais à l'activer systématiquement. Et tant qu'on y est, ils y ont passé de coûteuses campagnes publicitaires, mais rien n'y a fait. Monéo ne décolla pas. La monnaie, en espèces sonnantes et trébuchantes, restait tellement plus simple à utiliser. Finalement, le service fut débranché en état de mort cérébrale le 30 juin 2015, paix à son âme, et personne ne se battit pour garder le malade végétatif en vie.
On fera pas de blague. fera pas de blague.
Non, non, non. Ayant retenu les leçons d'ergonomie, les banques adoptèrent la proposition de paiement sans contact poussée par Visa. Hélas, la sécurité n'est pas de mise immédiatement dans le système NFC, mais sa simplicité et sa facilité en ont déjà popularisé l'usage. Ou alors la pub nous ment, je ne sais pas.
Cher Crédit Mutuel, bonjour. J'ai bien reçu ton courrier. Enfin, tes 9 courriers, pour être précis.
Vous êtes à découvert.
En date du 10-09, tu m'écris frais de télérecouvrement 11,80€. Pour un appel de moins d'une minute me signalant que j'étais à découvert. En date du 13-09, tu m'écris relance impayé 13,50€. C'est pour le SMS automatique que j'ai reçu qui m'indiquait que j'étais toujours à découvert. Le 16-09, tu m'écris frais impayés prélèvement trésor public 14,74€. Fois 2, évidemment, parce qu'en fait j'ai l'impôt sur le revenu plus la taxe d'habitation qui n'est pas passée non plus. Le 18-09, tu m'écris frais lettres compte débiteur 13,50€. C'est ça, c'est pour toutes les lettres que j'ai reçues m'indiquant que j'étais à découvert, hein. Et enfin, le 7-10 dernier, tu m'écris à nouveau frais de télérecouvrement 11,80€. Ça, c'est pour le dernier SMS automatique reçu m'indiquant que ma carte était bloquée. Cher Crédit Mutuel, en l'espace de 28 jours, j'ai bien enregistré grâce à toi que j'étais à découvert. Ceci dit, je le savais déjà, hein, vu que je consulte régulièrement mon compte sur ton application sur mon mobile. Gratuite, l'application. Seulement, pour l'envoi de 9 lettres, 2 SMS et un appel, t'as jugé bon de me creuser mon découvert de 80,08€ de plus. Alors, pour cette fâcheuse tendance que tu as à me prendre de l'argent que je n'ai pas et que tu vas de toute façon me réclamer, j'ai quelques conseils pour toi. Conseil numéro 1. Tu devrais changer d'opérateur. Hey, chez toi, l'envoi d'un SMS coûte 13,50€ et un appel de moins d'une minute, 11,80€. Tu te fais avoir !
Kevin Martineau, donc, qui l'an dernier s'était exprimé à propos du Crédit Mutuel, et la fin est encore plus drôle quand on se rappelle qu'une filiale du Crédit Mutuel vend de la téléphonie mobile et s'appelle CIC Mobile. C'est pas franchement une bonne publicité pour eux.
Je sonne dans les Blasios, un groupe punk de Normandie. On répète dans la grange tous les mardis et les jeudis. Quand au bout d'un quart d'heure, on a assez fait de bruit, on s'assoit dans le foin et on chante ce refrain. Si j'avais le portefeuille de Manu Tao, je partirais en vacances, au moins jusqu'au Congo. Si j'avais le compte en banque que Louise attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pâques. C'est bon la Normandie, comme le dit ma grand-tante Marie. Mais si j'avais du blé, je partirais bien loin d'ici. Souvent les soirs d'été, je m'assois dans les champs de blé. Je ferme doucement les yeux et j'écoute le pommier chanter. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques. Super moto, si j'avais le compte en banque de Louise Attaque, je partirais en vacances, au moins jusqu'à Pâques. Moi aussi, si je pouvais, j'irais bien jusqu'au Mexique, boire de la tequila avec le commandant Marcos. Mais j'ai encore au moins 7 hectares à labourer. Je remonte sur mon tracteur et je chante pour me donner du cœur. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances, au moins jusqu'au Congo. Si au moins jusqu'à Pâques, mais j'ai pas un beau chapeau comme Manu Chao. Et j'irai en vacances seulement à Salo. Et j'ai pas de la classe comme Didier Vampas. Je resterai pour les vacances tout seul avec mes vaches. Si j'avais le portefeuille de Manu Chao, je partirais en vacances avec tous mes potos. Si j'avais le compte en banque, la Louise Attaque, je partirais en vacances au moins jusqu'à Pâques.
Les Vampas, Manu Chao.
Oui, il a quand même la classe, Didier Vampas, soit arrêtez de déconner.
Et de suite, donc, pour terminer, la météo des trous.
Et... Pardon ? La météo des trous, c'est ça que...
t'as dit ?
Ouais, quoi ? Bonjour Myriam.
Je sais pas, c'est limite sexiste un peu, non ?
Bon, ok.
Bonjour. Bonjour.
Non, mais je vais arranger ça, attends. Je vais te trouver un truc.
La météo d'Internet. Boing, ping,
boom, jack, ping. C'est un peu mieux.
C'est un peu mieux.
Je t'en prie, c'est à toi.
Je peux y aller ?
Oui.
Pour Fischer Vendest 5, Beaufort évoluant avec risque d'évaporation de numéros de carte bleue, verte, gold et platine. Vous avez reçu un email de votre banque nécessitant de fournir votre mot de passe. Vous y répondez. Vous serez à sec. Pour faire la manche est, manche ouest et s'endetter, avis de grain, perte de blé probable, demande de transfert de fonds en cours ou prévu centré sur les Açores ou la Barbade, s'orientant vers la Chine et l'Europe de l'Est. Surprise, l'email de votre capitaine demandant le dit transfert n'émanait pas de votre capitaine ni de son frère. Vous avez confondu riche jumeau et anticyclone. Dépression 980 hectopascales, s'il te plaît, 980 hectopascales sur l'est de Germain, sous contrôle de botnet nigérian, s'évacuant vers le Bénin. Probable héritage du défunt ministre des Finances ivoirien qui laisse sa fortune moyennant quelques avis de frais à grands frais administratifs. Pas de retour à la normale des fonds en cours ou prévu. Situation générale et évolution, les protections et les programmes de signature comportementale, largement financés par les agios et autres frais bancaires, seront contournés encore durant les 5 années à venir. La profession d'éleveur de mules devrait rapporter plus que les vaches à lait. Ceci termine notre bulletin météo cybermarine.
Merci Myriam.
Bravo. Merci.
La cybermétéo vous était présentée avec notre partenaire knis-mag.com, commentateur officiel des charges virales et des rustines constructeurs. C'était la première de CPU pour cette première version. L'équipe Gaël Serret, Chief Monetizing Officer, Daskrit, Chief Currency Officer, Solarus, Chief Financiary Officer, Marco Lanier, Chief Auditor Officer, Myriam Chav, Chief Cashier Officer, Eugène Lowe, Chief Locker Officer. L'édition était shippée avec les moyens techniques d'Equito, de l'onde miroir, de combustible et de radio éphémère. Merci évidemment aussi à Enflammé et au public présent pour cette première. Merci pour l'ambiance, en tout cas, c'était sympa. L'intégralité du programme, des extraits sources sonores sont disponibles sur le site cpu.daskritch.net. Vous pouvez commenter et partager. Prochaine release avec Myriam et Chris O'Brien, le dessin animé des cellulos au pixel. Nous vous donnons donc rendez-vous jeudi prochain sur Radio Éphémère à partir de 11h et sur le site et le podcast. Si vous nous écoutez sur Radio Éphémère, ça veut dire qu'il est presque midi. Donc je vous laisse avec l'impromptu et Monique Blanquet. Hello Monique !